Tire en direct. Tire en direct.
101.7.
107.5. Tire en direct.
Tire en direct.
107. 107.5. Tire en direct.
Eh bien, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dire en direct. Et oui, Dire en direct, c'est ton émission hebdomadaire de direct sur les antennes de RDIWA le mercredi à 11h à midi et peut-être un petit peu plus.
Salut tout le monde.
Bonjour tout le monde.
Hello.
Vous allez bien?
Ouais, bah j'espère
oui,
que.
Va. Oui.
Ouais, que vous passez une bonne matinée.
Et qu'on va la continuer ensemble. Alors, le programme aujourd'hui. Des chroniques.
Des chroniques, ouais.
Ouais, toujours, hein, des petites... Moi, j'ai une petite archive à un moment.
Ah, chouette. Moi, j'ai mon billet d'humeur qui va arriver après Alice.
Super. Et puis bon, bah, on peut toujours rappeler aussi que les studios sont ouverts, voilà, à gauche, en haut de l'escalier. Inutile de frapper, tu peux entrer et venir nous voir. Tu peux aussi appeler le 09 52 368 531. Et voilà.
Je vais brancher le téléphone. Hein.
Ouais,
c'est mieux.
On se
ouais.
À chaque fois.
Et bien nous, je vous propose tout de suite qu'on commence, qu'on se jette dedans, comme on dit, dans le métier. Et qu'on aille direction la culture avec Vincent. Bonjour Vincent.
Salut. Allez, on y va.
Dire en direct. La page culture locale. D'Iroise. 107.5. Et 101.7 FM. Dire en direct.
Alors, en ce moment, auditeurs, auditrices de RDIWA, c'est la semaine des rencontres de l'écologie qui se déroule là actuellement à Die. Et pour cette page culture, eh bien, je suis allé rencontrer Estelle Gilliot, chargée de coordination de l'association Écologie au quotidien, afin qu'elle nous présente le programme donc, des rencontres de l'écologie qui ont lieu en ce moment à Die, et cela jusqu'à dimanche. Une programmation dense et riche pour ses 20e rencontres, des conférences, des ateliers, des projections de films, des spectacles. Les rencontres font une bonne place aux enfants et aujourd'hui, mercredi.
Cet après-midi, nous avons la plantation d'arbres à Minglon. C'est la suite de « Sous les arbres, rejoignons-nous ». Nous allons planter 3 arbres symboliques au Baraboc. Donc vous êtes les bienvenus pour... fêter cette plantation. Ensuite, on a à 14h aujourd'hui un atelier théâtre forum avec la compagnie L'Étincelle qui viennent régulièrement aux rencontres. N'hésitez pas à réserver vos places sur le site internet écologiequotidien.fr. Et puis, on a pour les enfants un conte sur les longs parce que cette journée est dédiée aux enfants. Et donc, il y aura aussi un atelier masque à 15h pour créer un petit masque pour les enfants et un goûter, comme chaque année, aux rencontres de l'écologie. Il y a un grand film qui est super pour les enfants également, Le Grand Secret du Lien. Ce sont des enfants qui découvrent le lien avec la nature, avec plusieurs intervenants, dont Pierre Rabhi qui nous a quittés et qui est justement dans le film également. Ensuite, donc jusqu'à dimanche, on a plusieurs... je vous invite vraiment à regarder le programme parce qu'il est dense. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un atelier avec vraiment des jeux sur l'environnement, des jeux éducatifs qui peuvent servir à des mairies, à des collectifs, à des écoles autour de la fresque du climat, un jeu sur le bas carbone, un autre jeu sur la destination territoire énergie positive. C'est vraiment une belle façon d'aborder le changement climatique et comment prendre des bonnes mesures en rigolant et pas en étant trop déprimé.
Voilà, un festival qui continue avec, en faisant une grande place, évidemment, aux enfants, parce que, évidemment, c'est important. Et ce soir, donc, à 17h, au cinéma Le Pestel, Le Grand Secret du Lien, un film donc, de Frédéric Plénard. Frédéric Plénard, enseignant en sciences et vie de la Terre, mais aussi réalisateur, travaille essentiellement le film de type documentaire autour de l'humain, du social, de la nature, de la culture. Alors, en 2017 et 2018, il a en effet mené une expérience certainement riche d'enseignement en proposant à 5 groupes d'enfants venus de 5 régions différentes vivre pendant un an un grand voyage, comme il appelle, à la rencontre des jardins, des arbres, des forêts, des prairies, des rivières et de l'océan. Alors, entouré d'une équipe d'éducateurs nature, de spécialistes de la biodiversité, mais aussi de chercheurs tels que Philippe Mérieux, professeur des universités en sciences de l'éducation, tous et toutes sont allés faire l'expérience sensible du monde, de la nature. Une nature qui, quand on l'approche, quand on l'explore avec goût, avec curiosité, il serait bien que la joie qui l'accompagne soutienne ou renforce la confiance en soi, la créativité, l'esprit d'initiative, l'autonomie, le désir d'apprendre. Mais aussi, en quelques mots plus forts encore, et sans que cela soit galvaudé, une conscience plus aiguisée de ce qui est écrit sur le fronton de tous les établissements scolaires, liberté, égalité, fraternité. Des expériences sensorielles, il a mis au point un cadre de recherche et un processus qui allie l'expérience sensible à la connaissance, le sensible et le savant. Pour ce réalisateur, donc, je le disais, Frédéric Plénard, pardon, l'approche sensorielle de la relation au monde vivant et minéral est clé pour enseigner le sens de la vie sur Terre, la connaissance de la Terre vivante comme point de départ d'un nouveau modèle éducatif. Et je vous propose qu'on écoute un extrait d'archives où l'on entend Philippe Mérieux, l'un des accompagnants de ce projet mené par Frédéric Plénard, présenter son livre « Le plaisir d'apprendre », donc écrit en collaboration avec des artistes, des écrivains. On l'écoute.
Et il s'efforce de montrer que s'il n'y a pas de plaisir dans la découverte, dans la compréhension, dans l'apprentissage, eh bien il n'y a pas de progrès possible. On ne peut pas grandir, on ne peut pas réussir, on ne peut pas s'inscrire dans une société et y devenir citoyen. Alors c'est un peu irritant de parler de plaisir d'apprendre, ça paraît un peu étrange, peut-être même un peu dérisoire au regard des grands échafaudages ministériels, des problèmes représentés par les programmes, de toute l'architecture de l'éducation nationale, mais c'est pourtant absolument essentiel. Imaginez un enseignant qui tente de transmettre et puis des élèves qui face à lui refusent systématiquement d'entendre, refuse même d'examiner la possibilité qu'il y ait un peu de plaisir à comprendre ce qui se transmet là. L'enseignant a une responsabilité fondamentale, celle de communiquer à toutes et à tous, c'est la condition de la démocratisation de l'éducation, ce plaisir d'apprendre que chacun, au-delà de ce qu'il a appris à l'école, eh bien, emportera avec lui et il faut l'espérer toute sa vie. Toute sa vie, oui, parce que nous sommes à l'âge de la formation tout au long de la vie et que le plaisir d'apprendre n'est pas réservé à l'école. Le plaisir d'apprendre, nous devons, nous pouvons l'éprouver toute notre existence dans notre rapport avec le livre, mais aussi avec toutes les œuvres de la culture.
Voilà Philippe Mérieux, alors évidemment sans doute expert. Et nous, dans nos petits territoires de campagne, nous avons la chance d'avoir des instituteurs, institutrices qui travaillent bien sûr avec leurs élèves justement dans la nature. Et j'ai voulu rencontrer et vous faire entendre deux de ces instituteurs, Christian et Isabelle. On les écoute.
Ouais, moi je sais que déjà... personnellement, voilà, c'est un besoin pour moi d'être dans la nature et du coup, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec les enfants, c'est sûr. Ouais. Ouais, ouais.
Bah, on sort des murs, on fait tomber les murs et on est dehors. Les enfants respirent et voilà, ça fait du bien. Ils observent, on travaille, on fait des activités scolaires aussi, on fait des recherches, on fait des mathématiques, mais pas que. On fait des sciences, on fait voilà, mais on les fait autrement. On les fait dehors, voilà. Mais nous, voilà, ce que je dis, nous, on débute. Moi, c'est la première année vraiment que je le fais, mais je sais que des collègues l'ont. Dans le DIWA, c'est vraiment quelque chose qui se développe bien.
D'être dehors, ça favorise l'authenticité, en fait. Je trouve que les enfants, ils sont plus authentiques, plus eux-mêmes, en fait. Du coup, ça se ressent forcément dans leurs relations entre eux et puis avec nous aussi. Voilà. Après, la nature, on pourrait tout faire à partir de la nature. Après, nous, on n'est pas encore assez experts par rapport à ça, je pense. Mais en effet, je veux dire, la nature, elle offre tout ce qu'il faut pour l'apprentissage, quoi. Pour tous les apprentissages, en fait.
Comment ça se passe concrètement? Alors, où est-ce que vous vous rendez avec toute ta petite troupe d'élèves?
Pour l'instant, c'est tous les jeudis après-midi. Après, peut-être qu'on pourra aussi y aller le matin. Voilà, pour l'instant, comme on teste. Et on va derrière, on va, oui, 10 minutes de l'école, on est au bord d'une rivière, dans une petite forêt, laissée par un parent d'élèves de l'école de Minglon qui nous a laissé le terrain là pour l'année. Et du coup, on a aménagé ce lieu un petit peu avec des bancs que les enfants ont fabriqués. Voilà, donc chacun a son arbre, on a la rivière qui coule, voilà, on a de l'espace, on a plein de choses à voir et voilà. On nous a souvent posé la question, mais pourquoi faire classe dehors dans le DIWA? Parce que justement, les enfants sont souvent dehors. Qu'est-ce que ça peut faire de plus? Parce que c'est vrai que c'est des enfants, contrairement en ville, où voilà, ils ont l'habitude très souvent quand même d'aller dehors. Donc c'est une question qu'on s'est posée. Et en fait, on sort dehors ensemble avec la classe. Et du coup, on est dans le collectif. Les enfants construisent ensemble. Donc ça, c'est déjà la première chose. C'est vraiment différent que de sortir en famille. C'est ensemble, on va faire une classe ensemble, on va se créer des lieux ensemble, on va construire, je sais pas, on va construire des choses. Là, comme ça, j'ai pas d'idée. Nous, je sais qu'on a fait un lieu de rassemblement. On a passé 2 jours à essayer de construire, à aménager notre petit lieu. Et après, il y a toute la question d'apprendre autrement qui se joue. Et là, je pense que Christian va pouvoir développer la question du apprendre autrement dehors.
Ce que tu dis, je veux dire, il y a le phénomène du collectif. Je veux dire, voilà, chacun va apporter sa petite goutte, son observation, son regard à lui, qu'il va pouvoir partager aux autres. Donc déjà, apprendre, c'est partager. Hein. Donc là, il y a une richesse qui est énorme. Et puis ensuite, c'est vrai que ça permet de rendre concret la plupart des apprentissages. Là, ce qui me vient en tête, c'est par exemple en mathématiques, quand on a des mesures à faire, c'est quand même plus sympa d'aller les faire en direct, mesurer la hauteur d'un arbre, d'un rang de vigne, estimer le nombre de pieds de vigne qu'il peut y avoir dans une vigne. Bah, voilà, on est dans des situations concrètes qui peuvent rendre les maths plus attractifs, on va dire. Plus attractifs, je crois que c'est féminin. et puis ensuite, sur l'imaginaire, moi je trouve que c'est... chez toi comme dans ton petit coin avec tes enfants, parce que j'ai eu la chance d'avoir une après-midi où j'ai pu aller voir quand même, et du coup ce que j'ai vu chez toi puis ce qui se passe aussi avec mes enfants, c'est voilà tout le petit imaginaire qu'ils vont créer autour de leurs arbres, c'est génial, au niveau de l'expression orale et puis ensuite au niveau de l'expression écrite, ça peut se retrouver, c'est une énorme richesse, quoi.
Et c'est vrai que chez nous, ça se fait vraiment beaucoup. Je veux dire, les classes de maternelle, par exemple, sur Châtillon, elles sortent tous les 15 jours. Et en fait, souvent, les enseignants, ils ne sont pas conscients qu'ils font classe dehors. Mais en fait, si. Je veux dire, à partir du moment où on sort régulièrement une fois tous les 15 jours, et en fait, du coup, quasiment, j'ai envie de dire, toutes les classes du DIWA. Enfin, moi, je sais que celles que je connais, Châtillon, Minglon... Boulk, Chabestan, Valdrome, forcément, je veux dire, Luc, très certainement, ça se fait vraiment énormément, et on a la chance d'habiter dans le DIWA et d'en pouvoir enseigner ici, quoi.
Voilà, je voulais aussi rajouter aussi, en fait, parce que forcément, en science, quoi, tout ce qui est observation, la rivière, les bourgeons, moi j'étais surpris de. Parce que en fait, les enfants côtoient vraiment la nature chaque jour ici. Mais on a fait un petit travail sur les bourgeons et en fait, les enfants étaient surpris de voir des bourgeons en hiver.
C'est permettre d'observer ce qui nous entoure et de mieux le connaître pour très certainement mieux le protéger.
Voilà, ben effectivement, on entend que dans le Diwa, les instituteurs, institutrices font la classe dans la nature, et on peut penser aux enseignants qui, eux, travaillent dans des cités, dans des grands ensembles où certainement c'est beaucoup plus difficile d'aller faire la classe dans la nature, alors que c'est essentiel. Et donc, du coup, j'ai un peu voulu aussi les interroger à ce sujet. On les écoute encore un peu. Est-ce qu'il y a des endroits où entre, j'allais dire, instituteurs, institutrices de la campagne et des villes, vous pouvez vous rencontrer, partager des expériences et vous inspirer les uns les autres, les unes les autres, Isabelle?
On aimerait bien. Moi, j'aimerais bien que mes collègues qui sont expérimentés, on puisse se retrouver. Mais là, en ce moment, on n'y arrive pas. On n'a absolument pas ce temps-là. Mais c'est absolument... Moi, je le demande. Hein. J'espère qu'on arrivera à trouver ce temps-là. J'espère monter voir ma collègue de Boulk très rapidement, mais je n'y arrive pas. Après, je sais qu'on essaye de rencontrer aussi les collègues de Chabestin qui, eux, le testent depuis aussi l'année dernière. Mais on n'a pas ce temps-là. Mais on aimerait bien les voir, parce qu'on a plein de choses à échanger, plein d'expériences, et voilà. Donc j'attends vraiment de pouvoir les rencontrer, et j'espère que ça va se faire.
Et après, c'est vrai que par rapport aux collègues plus lointains, on va dire, voilà, qui sont vraiment dans les milieux urbains, c'est vrai qu'on a... Non, il y a peu de moments où on pourrait se retrouver. Ça pourrait être dans des stages de formation, mais... Encore faudrait-il qu'on puisse en avoir, quoi. Voilà.
Et voilà, c'était important, je crois, d'entendre ça aussi. Alors, ben, pendant ce festival, il se passe tout plein de choses. On ne va pas pouvoir être dans le détail très, très précis, mais effectivement, des films, des débats, des sorties nature, des ateliers de découverte, de rencontres, quoi d'autre encore, des conférences gesticulées. Tout plein de choses. Et effectivement, il faut aller voir ce programme et essayer de l'éplucher un peu dans le détail parce que tout le monde peut trouver des choses à aller recevoir et écouter. Voilà, donc on a eu aussi à cœur de faire entendre un peu ce qui se passe au cœur de ce festival, justement, sur la place de l'évêché, parce que c'est là que tout un chacun, chacune est invité à venir prendre un peu de temps pour manger, pour boire un coup, pour échanger autour de grandes tables. Et la cuisine est aussi un moment important pour ces rencontres de l'écologie au quotidien. On les écoute.
Alors, pour les rencontres, on a toujours voulu faire de la cuisine bio, locale. Et pendant les rencontres, en général, les repas des participants payaient les repas des bénévoles. Donc cette année, on ne sait pas trop comment ça va se faire, mais c'est vrai qu'on a plus de 50 bénévoles durant les rencontres, là. Et l'idée, c'est que de leur offrir vraiment une expérience unique. Donc on accueille tous les bénévoles et c'est un super moment pour eux, 10 jours où il y a de la solidarité, il y a de la bonne ambiance, il y a un endroit chaud pour certains, parce qu'il y en a qui dorment dans des camions, et vraiment de pouvoir vivre ensemble ces rencontres. Et ça a toujours été au cœur de l'écologie au quotidien, c'est de pouvoir offrir à chacun une expérience unique de solidarité. Pendant les rencontres, normalement, on épluche tous ensemble les légumes, on fait la cuisine, chacun a ses recettes, on essaye de mettre des référents parce que chacun a sa façon de cuisiner, mais c'est vraiment un microcosme, en fait, de tout plein de recettes, de tout plein d'origines aussi différentes, mais toujours avec des bons ingrédients. Donc, ils mangent bien. Pendant au moins 10 jours, on mange super bien.
Coopérer au moment où on fait de la cuisine. Bien sûr que la nourriture fait du bien, mais le fait de faire la cuisine aussi fait du bien.
Ouais, c'est vrai que moi, je sais que ma fille, elle va tout le temps en rencontre et elle adore parce qu'elle a 11 ans et elle va couper les légumes avec les autres bénévoles. Et c'est juste extraordinaire d'avoir ce mélange de générations aussi, de mélange d'origine ethnique. Enfin, c'est assez incroyable. Et cuisiner, c'est un peu vivre vraiment pleinement la vie. Enfin, moi, pour moi, la cuisine, elle est au cœur de notre vie, en fait. Et ça permet de partager autour de cette cuisine-là. Voilà. Qui est d'ailleurs, on a fait un livre de cuisine pour les rencontres, qui est vendu au marché en général par Valérie, du coup. Valérie, qui est la cuisinière référente cette année. Et qui a inventé des recettes avec Estelle Pedoux. Et elles sont extraordinaires, ces recettes. Je vous invite à acheter le livre. Elles sont hyper bonnes, faciles à faire. Et c'est délicieux, quoi.
Voilà, donc la cuisine, la nourriture, la table, se retrouver autour d'une table, se retrouver autour d'un film, d'une conférence, d'un atelier, eh bien tout ça réuni et solidaire pour une terre vivante, oui, c'est important, la solidarité. La solidarité au cœur de tout ça.
Alors, en fait, on a beaucoup hésité à faire ces rencontres, pas parce qu'on n'avait pas envie, mais parce que c'était très compliqué. On n'avait vraiment pas envie de faire les flics. On avait envie de le faire parce qu'on s'est dit, il n'y a plus de lieu pour se rassembler. On a besoin d'être solidaire, on a besoin de faire du lien encore plus en ce moment. Et on a vraiment tenu le coup pour les organiser. Et tout le monde est content d'être là et de pouvoir partager, de pouvoir se parler normalement et de penser à autre chose un peu que ce qui se passe actuellement dans la politique et ce qui se passe avec le pass sanitaire aussi.
Voilà, ben c'est important maintenant de faire entendre que ce festival est soutenu par les acteurs, actrices de ce territoire. Et il fallait faire un petit mot de remerciement. On écoute encore Estelle.
Et on voulait aussi remercier le Pestel, qui est vraiment un super lieu et qui va sortir Animal donc dimanche soir. Et qui est notre partenaire et qui est toujours présent pour faire avec nous les rencontres. Et puis, il y a aussi le SCDD qu'on remercie vraiment parce qu'ils nous ont accueillis dans leurs locaux. On les a un peu envahis et ils sont adorables, ils sont vraiment souples. On est là sur la place de l'Évêché. On tient à remercier la mairie qui nous a réservé un espace pour qu'on puisse mettre notre food truck et puis proposer le soir au Bras Zéro des soirées. Donc, c'est vraiment chouette. Et puis, la sous-préfecture qui a bien accepté qu'on fasse l'événement. Je pense que c'est un peu unique en France, qu'on puisse faire ça dehors et qu'on soit autant soutenu par la mairie. Voilà. Donc on voulait les remercier, c'est l'occasion.
Voilà, écologie au quotidien, les 20e rencontres, solidaires pour une terre vivante, c'est en ce moment et c'est jusqu'à dimanche 30 janvier, donc à 10. Et pour terminer cette petite chronique, eh bien, un petit hommage à celui qui aura inspiré, enfin qui m'aura inspiré, qui inspire, je pense, l'enfance, la terre, c'est Tête en l'air de Jacques Higelin dans une version concert à Mogador en 1981. Allez.
Toujours sur le 101.7 et sur le 107.5, voilà, dire en direct.
Voici une chanson qui arrive de la gorge d'un oiseau de Louisiane.
des vieux noix à queue, dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt, dans la vinaigrette, et des oubliettes au fond de la cour.
La terre comme au ciel d'être l'air.
Dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt, dans la vinaigrette, et les oubliettes, au fond de la cour, il y a des allumettes, il y a des allumettes, j'ai bien dans la cour, dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt, dans la vinaigrette, et les oubliettes, au fond de la cour, il y a des allumettes, il y a des allumettes, j'ai bien dans la cour, dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt, dans la vinaigrette, et les oubliettes, au fond de la cour, il y a des allumettes, au fond de tes yeux, des pots de yaourt, dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt, dans la vinaigrette, et les oubliettes, au fond de la cour, dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt, dans la vinaigrette, et les oubliettes, au fond de la cour, il y a des allumettes, dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt, dans la vinaigrette, dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt, dans la vinaigrette, et les oubliettes, au fond de la cour, il y a des allumettes, au fond de tes yeux, des pieds noirs que dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt, dans la vinaigrette, et les oubliettes, au fond de la cour, il y a des allumettes, au fond de tes yeux, des pieds noirs que dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt, dans la vinaigrette, et
Vincent, donc pour ta chronique culture et aussi culture de la terre, culture de l'esprit. Et merci de nous avoir parlé de nature. Donc on est dans l'émission Dire en direct et il y a Jean-Loup qui nous a rejoint au studio pour nous parler aussi de culture d'une certaine manière, en tout cas voilà, de plantes. Je te laisse Jean-Loup prendre la parole.
Oui, ben juste en 4 minutes, comme on l'a dit, il y a actuellement un sujet qui est brûlant d'actualité, c'est qu'il y a une nouvelle vague qui est arrivée, une vague de froid. Et donc qu'est-ce qu'on va faire face à cette nouvelle vague de froid? Alors il y a deux solutions, il y a la solution d'Ivoise et puis l'autre solution. Donc la solution d'Ivoise, c'est on fait un feu, on se réunit, on se serre les uns contre les autres, on danse, on chante et on mange, mais on mange pas n'importe quoi. On a tout ce qu'il faut dans le Diwa. Et il y a notamment deux plantes particulières dont je voudrais reparler, que l'on oublie un peu souvent. C'est la prêle et l'ortie. Et ces deux plantes, pour tous ceux qui en ont encore, parce qu'on n'en peut pas en ramasser en ce moment, ceux qui en ont encore, on fait une infusion de prêle et d'ortie 50-50. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire pour stimuler le système immunitaire, pour travailler sur la thyroïde, pour travailler sur l'instant présent, pour travailler sa reconnexion à la terre et retrouver son goût de vivre, parce que c'est toute la terre, tout le goût de vivre. Et c'est une association qui doit être faite avec les deux. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à en trouver, il y a un petit cadeau, puisque je vais laisser à Alice une dizaine de petites boîtes de poudre de prêle et d'ortie que j'ai pu avoir à l'herbier du Diwa, donc c'est du 100% bio, c'est parfait, et c'est vraiment très très efficace. Donc dans une petite boîte, il y a 30 doses, c'est simple, c'est facile et c'est très bien. Et après, il ne faut pas oublier quelque chose dont Alice nous a encore beaucoup parlé, c'est le cynorhodon. C'est quand même la meilleure vitamine C pratiquement du monde. Elle est là, elle est gratuite. Alors je sais que ce n'est pas bon pour l'économie, ce n'est pas bon pour l'État, mais elle est là, elle est disponible, elle est extraordinaire. Donc c'est la vitamine C. Donc voilà, mais encore une fois, moi je ne suis pas médecin. Moi, j'écoute le gouvernement et le gouvernement, face à la nouvelle vague de froid, nous propose une autre solution qui, quand même, est très bien. Elle a fait appel à la solution Pfizer et la solution Pfizer a mis au point un nouveau vaccin. Alors, c'est très simple. C'est un vaccin qu'il faut prendre toutes les semaines, qui coûte 17 €, mais on n'a pas à payer. Il faut surtout ne rien faire, rester chez soi, ne pas se couvrir, se séparer des autres, ne rien faire et attendre. Si vous êtes congelé, c'est très bien. Ça ne pose pas de problème pour les personnes âgées, particulièrement s'ils sont congelés, ils se réveilleront quand il y aura des solutions pour lutter contre la vague vague de froid. Et puis aussi, pour tous les jeunes qui sont en âge de procréer, c'est très important parce que le froid, ça permet d'éviter de procréer. Et ce qu'on veut, c'est quand même limiter la population, enlever tout ce qui nous coûte cher et limiter la population. Parce qu'il faut quand même protéger ceux qui ont réussi, qui sont au gouvernement, qui ont toute la place, et limiter au maximum ceux qui ne sont rien. D'accord ? Donc ça, c'est la solution gouvernementale. Moi, qui ne suis rien, je ne suis qu'un Diwa, donc je suis même plus citoyen, puisque les trois quarts des citoyens Diwa ont choisi la solution système immunitaire et non pas la solution expérimentation génique. Donc, si les trois quarts des Diwa ne sont rien, moi, je suis rien. Donc, je recommande très sincèrement la solution de la société Freezer, qui est vraiment une société extraordinaire pour l'économie, qui rebooste l'économie et qui donne un grand espoir à tout le monde. Je crois qu'ils vont être décorés de la Légion d'honneur, d'ailleurs, donc c'est très bien.
Est-ce que tu peux juste rapidement dire, si les personnes viennent chercher ces petites plantes, comment elles les prennent dans une boîte? Tu as 30 doses, tu disais.
Ah oui, alors c'est de la poudre. Alors, je dirais, si les gens ont une infusion, ben, ils prennent une infusion de chaque, c'est clair. Mais le truc important, c'est de prendre les deux ensemble et rien d'autre avec. C'est-à-dire qu'il y a une synergie entre la prêle et l'ortie qui fait que c'est vraiment très, très actif. Donc, un petit peu de poudre, je dis dans la petite boîte que je t'en ai laissé une dizaine de paquets. Si c'est trop difficile à prendre, parce que ça se dilue difficilement, c'est de la poudre. Donc, tu le prends dans l'eau et tu le bois comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Sinon, tu peux le mettre sur une tartine de miel ou sur une tartine d'ail ou bien dans quelque chose. Voilà.
J'opterai pour la tartine d'ail.
Ah, c'est excellent. Et c'est un très bon goût. Merci pour votre accueil.
Merci à
très bientôt.
À toi pour ton intervention.
Au revoir.
Et maintenant, petite chronique concept.
Chronique concept.
Ça parle de quoi ?
De politique.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Chronique Concept, la chronique qui remet les points sur les i du mot politique. Alors aujourd'hui, je vais beaucoup parler, ça va être long, alors accrochez-vous. Je vais tenter d'expliquer pourquoi la semaine dernière, je me suis attachée au concept de légitimité. Dominique Darbon, chercheur en sciences politiques, écrira « La légitimité est le produit des conditions que sont la confiance, le consentement, la réciprocité ». Elle est l'acceptation du caractère moralement juste et nécessaire des institutions constitutives du pouvoir. D'autres alimenteront la définition de ce concept en détaillant les différentes sources de légitimité politique. Ces sources peuvent être électorales, si une forme de contrat social définit les élections comme étant l'espace privilégié de la participation politique et de la prise en compte du consentement du peuple. Elles peuvent être traditionnelles, si une gouvernance répond à des valeurs héritées de l'histoire ou de coutumes profondément ancrées. Si la légitimité donc repose sur le caractère obligatoire de la règle coutumière. On reconnaît aussi ça dans les genres de phrases un peu résignées. Ça a toujours été comme ça. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dirige, etc. J'imagine que vous avez déjà entendu ça. Mais d'ailleurs, la semaine dernière, j'en ai enregistré une.
C'est l'argent qui mène le monde et qui continuera à le mener très, très, très longtemps. Je pense même... On ne sera plus là depuis longtemps, que l'argent mènera toujours le monde.
C'est vrai, vous pensez ça ?
Ah oui, 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 ah oui, complètement. Ça a toujours été et je pense que ça sera toujours. Hein.
Bon, je comprends en même temps cette personne. D'une certaine manière, la résignation, ça calme un peu la rage. Donc la légitimité, elle peut être, donc on l'a vu, électorale, traditionnelle, mais elle peut aussi être idéologique. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je pense qu'on capte un peu le truc. Genre, le gouvernement français actuel est légitime parce qu'il défend tout particulièrement l'intérêt des petites gens, tout en légiférant pour un système décroissant où le respect de la biodiversité est au centre des politiques publiques. Donc c'est une forme d'anachronisme. Si c'était le cas, on pourrait dire que le contexte environnemental planétaire, cette façon de gouverner, serait légitime puisque circonstancielle. Elle répondrait à des besoins dus aux circonstances. Bref, dans notre système représentatif, où l'on reconnaît au pouvoir politique le devoir de représenter le peuple et de prendre les décisions le concernant, les élections tiennent une place centrale. C'est par le biais du vote, lors des élections présidentielles, législatives, régionales, départementales et municipales, que les représentants et représentantes acquièrent leur légitimité et que le peuple consent à la façon dont sont organisées les institutions. Donc, je ne vous amène pas là pour rien. C'est juste que raisonner, c'est un peu long. Il faut prendre le temps, pas être trop pressé. Et ce n'est pas toujours évident dans un monde où tout va très, 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 très vite. Donc au départ, quand je voulais parler de légitimité, c'est que je me demandais comment c'était possible que nous consentions à tout un tas de choses alors que les décisions ou les personnes qui se trouvent au poste de décision ne sont pas toujours très légitimes. Si on prend les dernières élections présidentielles, on remarque qu'il y a eu au second tour, alors que ce n'était pas n'importe quel second tour, disons-le, 25,44% d'abstention et 8,52% de vote blanc. Lors des dernières élections départementales et régionales, on a compté 65% des élections, d'abstention. Pardon. Donc peut-on, avec ces chiffres, peut-on considérer que les personnes élues à l'issue de ces élections sont légitimes ? Peut-on considérer que les citoyens et les citoyennes donnent leur assentiment aux institutions telles qu'elles sont ? Bon, une fois de plus, je vais laisser ces questions sans réponse. Mais je vous laisse écouter une petite archive de Jean-Paul Sartre, qui date de 1947.
Je voulais parler du parti des abstentionnistes. Vous n'avez pas remarqué ? 32% d'abstention en moyenne, 32% sur le corps électoral en général. C'est-à-dire que le plus grand parti de France actuellement, c'est le parti des gens qui ne votent pas. Je sais ce que vous allez me dire, on est paresseux, on ne va pas au vote. Oui, mais ça c'est vrai pour les périodes heureuses. Dans les périodes heureuses, en effet, on ne tient pas spécialement à voter. Seulement, vous avez affaire aujourd'hui à des gens qui ont envie de manger, qui ont peur de la guerre, qui ne veulent pas non plus de la guerre civile. Tous, il n'y a pas un Français qui ne soit dans ces conditions-là. Et ces gens-là n'ont pas été votés ? Voyons, c'est absolument enfantin de croire que ça ne signifie pas quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que malgré toutes vos propagandes et celles des autres partis, quelque chose cloche, que vous avez le tiers des Français qui estiment que la politique actuelle de n'importe quel parti qui soit est rigoureusement insatisfaisante. Pour moi, c'est un grand signe d'espoir, parce que c'est à ces gens-là qu'il faut s'adresser.
Promis. Les semaines à venir, j'irai voir ces gens-là. Merci à vous.
Merci Nénu pour cette superbe chronique. Et puis ça fait toujours plaisir d'entendre Sartre. On n'entend quasiment plus. Enfin, voilà, alors que bon, il y a tellement de choses intéressantes à dire. Eh bien, ça avance vite, ça file. Il est 11h30, presque 37 sur RDOA, sur ta radio préférée. Voilà, juste pendant que j'y pense, je voulais dire à tous nos auditrices et auditeurs que la campagne d'adhésion 2022 est lancée. Voilà, donc n'hésitez pas à passer par Hello Asso, par notre site, vous pouvez cliquer, passez nous voir, ça nous fera plaisir. Mais voilà, on a besoin de vous, c'est vital.
Ouais.
C'est vital, ouais, RDOA a besoin des adhérents et des adhérentes.
Exactement, on n'a pas besoin que des auditeurs, voilà. Venez faire votre radio, venez participer à votre manière. Et maintenant, on va aller sans plus attendre. Majdou, ta petite chronique, ton petit billet d'humeur.
Ouais. Et bah, rapprochez-vous du micro, ils sont ouverts, hein, si vous voulez participer avec moi. Vroom, vroom. Tut, tut. Salut tout le monde. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui ? De ce qu'on fait rentrer dans les véhicules. De là où on va pour de la pompe chère, de ce qui nous rend pêcheurs, ce liquide particulier et puissant à la fois, ce truc qui se vide et qui nous vide, et que quand c'est vidé, ça fait mal. C'est plein, ça fait du bien, mais ça aura bien fait un trou quelque part. Alors toi qui m'écoutes et qui en a déjà marre de cette chronique, moi... Tu sais, ma douce, veni, vidi, vici. Alors ne coupe pas ton poste radio et reste attentive. Aujourd'hui, je vais vous parler du prix de l'essence.
Oh ! Ah oui.
Ils sont passés où, là, les gilets jaunes ? Ils mériteraient de revenir un coup, là, non ? Parce que cette nuit, c'est quand même passé à 17 euros le litre. Allez, on frappe dans les mains. Et gilets jaunes ! Oh, gilet jaune, allez les gars, on arrête de faire les chauchottes. Faut plus avoir peur de se faire arracher la main, faut y aller là. Bah, c'est ce que les précaires ont toujours fait, non ? Se faire tabasser au front pendant que les autres font des chroniques rigolotes dans un studio où on approche les 23 degrés au calme. Après, nous dans le DIY, de toute façon, on est tellement saut décroissance qu'on va monter à dos d'âne pour être saut anti-système. Mais imagine là, il y a une montée du cours de l'âne. Bah, nous, dans le DIY, on montera à dos de punk à chien. Et ouais, nous, ici, on a tout compris. On a toujours la bonne alternative. Bah ouais, normal. Ici, je te dis, on a Pablo Servigne, notre sauveur. Pablito, pour ceux qui savent. Bon alors, Pablito, comment on fait ? Dis-nous. Faut qu'on roule en éolienne, c'est ça ? Ah mais non, purée, je m'embrouille les pinceaux. L'éolienne, c'est toujours pas bon. Parce qu'en fait, les Congolais, ils en chient pour aller nous chercher le cobalt ou le lithium, je sais plus, bref. Je sais pas moi, il faut qu'on aille au travail en charrette tirée par des bœufs. Ah bah non, parce qu'en fait, les bœufs, quand ils font des proutes, eh ben, ça fait des trous dans la couche d'azote, dans la couche d'ozone. Oh putain, je sais plus moi. Bon allez, viens mon punk à chien, on se casse vivre à Ibiza avec Jean-Michel Blanquer. Parce qu'ils ont toujours pas compris que la seule solution, c'est de prendre les ronds-points pour demander une augmentation des salaires.
Ah mais oui.
Mais oui, mais gna gna gna, si on réindexe les salaires, on risque l'hyperinflation et on va finir comme dans le tiers-monde. Tu sais, en Libanie, ils payent des pâtes 50 euros le kilo, alors t'imagines ici le prix du quinoa à la carline. Ouais, on n'est pas dans la merde. Bon, moi, il y a un économiste du MEDEF qui m'a dit que tout ça, c'est la faute des syndicalistes qui demandent des augmentations de salaire. Alors, il faut se serrer les coudes pour sauver les profits des Grand Enterprises, les actionnaires de la Startup Nation.
Oh yeah.
Alors, Diwaz, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de ronds-points par chez nous. Et qu'on ne porte pas de gilets jaunes sur les dos d'âne. Mais le changement, c'est maintenant. Moment nostalgique. François, he's back. Hollande revient, les gars. Et alors, on s'en fout du prix de l'essence. Hollande est de retour, et ça me donne envie de faire une pétrole shower. Merci de m'avoir écouté.
Oui. Merci.
Gilets jaunes, moi gilets jaunes, que moi les gilets jaunes, faut danser petit.
Voilà. On était parti bien. Excusez-moi. Nous sommes encore là. On était presque parti sur un rond-point, dis donc. Merci pour ce petit billet d'humeur qui est.
Voilà, ça commence à faire cher là, tout ça. Ouais. Non, je sais pas vous, mais moi ça commence à.
Et oui, pour venir, il va falloir que tu sortes ton vélo électrique.
Oui, par exemple.
On va arrêter d'aller travailler, du coup, c'est ça.
Oui, pourquoi pas. Je sais pas.
Ou le télétravail quand il y aura de la connexion internet dans le Diwa. Voilà. Et bien moi ce que je vous propose c'est d'enchaîner parce que là ça passe, je sais pas si tout le monde va pouvoir passer. Mais du coup c'est au tour de Yves, une petite chronique, une recette de cuisine.
Ouais, comment t'as deviné?
Je sais pas, c'était une question du coup, parce que j'ai adoré celle de la semaine dernière.
Ouais, j'espère qu'elle sera bonne cette semaine aussi. Alors suite à la recette de la semaine dernière, je réponds à quelques questions qui ont été envoyées à notre boîte mail. Alors Solange et Wendy, vous pouvez ajouter des tomates cerises, mais est-ce que ça reste encore un gratin du Dauphiné? Et puis Michel Jean, je pense que votre père a voulu vous faire plaisir en préparant ce plat pour la famille. Et oui, il faut bien enlever les emballages de fromage qui grillent pour ne pas griller le four à micro-ondes. Peut-être que pour la prochaine fois, vous pourrez l'aider ensemble et en joie. Aujourd'hui, je propose un gratin de la mer pour pas cher. Quoique, avec le micro-ondes, ça devient de plus en plus coûteux. Alors, pour 4 personnes, 400 grammes de nouilles bio, 4 boîtes de sardines à l'huile ou fraîches, selon les goûts. Ensuite, 100 grammes de râpé, 100 grammes de margarine bio, un œuf, un verre d'huile bio et une gousse d'ail pour l'aioli. Alors, pour préparer l'aioli, on prend le jaune d'œuf, on le verse dans un bol et écrasé délicatement avec une fourchette, on monte avec le jaune d'œuf et en versant doucement de l'huile et remuer tranquillement jusqu'à ce que l'aioli soit monté. Ensuite, vous prenez un plat en grès rond et profond, vous y versez les nouilles en les étalant, puis les couvrir d'eau de dessalage. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, l'eau de dessalage de la semaine dernière, il fallait la préserver pour servir à d'autres préparations. Vous mettez ça au micro-ondes. Alors, il faut bien surveiller la cuisson, que l'eau ne déborde pas. Et si c'est le cas, vous ouvrez le four rapidement, vous laissez reposer et puis vous relancez la cuisson. Ça devrait prendre 20 à 30 minutes. Les nouilles cuites, vous les égouttez. Pour les amoureux de la nature, des sardines fraîches, vous les videz dans l'évier, les lavez et les essuyez. Ensuite, vous prenez un plat en grès, vous disposez les sardines bien en rang et les mettre au micro-ondes à surveiller. Et quand l'œil est blanc, c'est cuit. Vous les posez sur un torchon en attente de refroidir. Ensuite, pour les sardines en boîte, pour les personnes qui auraient une impatience à apprécier ce plat, donc vous déposez les sardines sur un torchon, bien les égoutter et réservez l'huile. Une fois les sardines fraîches refroidies, vous allez délicatement récupérer les filets et les mettre dans un saladier. Prenez un plat en grès, et mettez la margarine à fondre au micro-ondes chaude. Vous la versez dans le saladier et délicatement vous écrasez les sardines à l'aide d'une fourchette. Et bien mélangez pour constituer une pâte onctueuse. Vous pouvez ajouter le blanc d'œuf. Ensuite, vous prenez un plat engrais. Vous y versez la quantité de nouilles, une demi-quantité du moins. Et ensuite, vous les étalez bien sur... Et vous les recouvrez de la préparation et vous finissez le tout avec le reste de pâte. Vous saupoudrez de râpé et 2 minutes au micro-ondes. Vous pouvez agrémenter de sauce et de votre convenance que vous trouverez dans vos placards et frigos. Ça sera moins sec. Consommer avec un cidre brut, ça décape bien. Bon appétit. En tout cas, si vous avez des recettes à partager, n'hésitez pas à nous contacter. Et bon appétit. Au revoir.
Merci.
Merci. Bon, bah, j'ai faim. Ça y est, c'est officiel. Il est midi moins le quart. C'est bientôt l'heure de manger. Bon, bah, écoute, est-ce que tu m'entends à la maison ce midi? C'est sardine. Hein
ouais.
Moi, je suis chaud.
Nous, avec Vincent, on fait des reportages en ce moment sur la santé et l'alimentation. Je pense qu'on va, venir te voir. Voilà comment, l'alimentation peut nous aider à être en bonne santé.
Une cuisine saine et naturelle.
Mais t'as l'air d'avoir des plans pas mal. On va venir.
Bon, allez, merci. Sans transition, c'est une semaine, une radio. Sao, qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine? On va où, là?
Bah, je vous propose d'aller dans le sud Loire ou le Nord Ardèche. C'est une radio qui est sur les deux départements.
Une semaine, une radio.
Le Sénat.
Chiffres publiés hier soir.
Présentés succinctement.
À travers une collaboration mondiale.
Alhamdoulilah.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Dans toutes les autres régions.
Et les causes, mes boots Brunston sont adaptés à toutes les situations. En plus, le prix est fin valable, à partir de 8900 francs seulement.
Une semaine, une radio.
Et qu'on va pouvoir adapter ici.
Une grosse envie, une grosse demande.
Pas tant que ça quand même, quoi. 30 crêpes, quoi.
Mais mal conscient aussi que beaucoup de gens, ils font déjà ça, hein. On l'a déjà vu, mais j'ai été témoin de ça. Hein.
Avec Frédéric Monod, coordinatrice de Radio D'ici, salut à toi.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu Radio D'ici?
C'est une radio associative, l'association c'est Radio Pirayon, puisqu'elle est née à Saint-Julien-Molin-Molette, dans le sud de la Loire, et les gens de Saint-Julien-Molin-Molette, c'est les Pirayons. Et puis, c'était un petit peu spécifique comme nom, alors elle s'est vite appelée Radio D'ici. Comme ça, ça permet d'être la radio de partout. Et du coup, elle est née en 96. Donc, il y a déjà pas mal de temps à Saint-Julien-Molin-Molette. On a eu plusieurs fréquences. Hein. Et puis, depuis 2006, il y a une fréquence sur Annonay aussi, dans le nord de l'Ardèche. Donc, la plus grande ville de l'Ardèche quand même. Et du coup, on a pu ouvrir un studio à partir de 2015 à Annonay. Ça nous fait 2 studios, un dans le Sud-Loire et un dans le Nord-Ardèche. C'est 2 zones très différentes parce que finalement, sur Saint-Julien-Molin-Molette, on est sur une zone assez rurale. C'est le sud du parc du Pilat, donc rurale et montagneuse, moyenne montagne. Alors que sur le bassin d'Annonay, on est vraiment déjà sur un bassin... C'est une grande ville, mais c'est pas non plus Lyon ou Marseille. Hein. Mais c'est quand même un bassin très habité, avec des activités industrielles et donc pas du tout le même aspect que Saint-Julien. Du coup, ça fait 2 studios qui travaillent quand même de façon assez différente. Et sur le bassin d'Annonay, il y a beaucoup d'associations, il y a une vie associative et culturelle qui est assez dense, ce qui nous permet de créer beaucoup de partenariats qui sont un petit peu plus difficiles à créer sur Saint-Julien, même s'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent à Saint-Julien, évidemment. Donc on a 2 équipes de bénévoles, 2 équipes de salariés, et tout ça, ça fonctionne quand même un petit peu ensemble, mais avec quand même 2 programmes bien spécifiques.
2 programmes spécifiques, est-ce que tu peux nous les détailler un peu, la différence justement entre une radio rurale peut-être et une radio urbaine?
Alors du coup, sur Saint-Julien, on a beaucoup d'émissions de bénévoles. On a beaucoup d'émissions aussi avec les collectivités locales et des agriculteurs qui s'installent, des artisans dont on fait valoir l'activité. Et sur Annonay, on a beaucoup d'émissions avec des partenariats, des ateliers scolaires, des ateliers avec les personnes âgées, des ateliers avec les centres sociaux. Et dans le cadre du contrat de ville dont bénéficie aussi la zone d'Annonay, les hauts quartiers d'Annonay, donc un contrat de ville, c'est un contrat signé entre l'État et la ville pour développer tout un tas d'activités. dans des quartiers dits prioritaires parce que dits plus difficiles. Du coup, on a beaucoup de travail fait en partenariat pour amener les gens vers l'outil radio et qu'ils puissent, à travers cet outil, créer leur propre expression, on va dire.
Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la ligne éditoriale ?
C'est surtout de favoriser l'expression de tous, sans discrimination, bien sûr. C'est pas toujours si évident que ça, c'est facile à dire, mais c'est des fois un peu plus difficile à appliquer en réalité, puisque chacun a des idées bien arrêtées et que les bénévoles sont très éclectiques, donc il faut arriver à mettre chacun un petit peu au même niveau. De beaucoup développer aussi le travail en milieu scolaire pour faire de l'éducation aux médias. Et surtout en ce moment où on a du mal un peu à lutter contre les fake news et autres rumeurs. Donc on accentue beaucoup ce travail-là, autant sur Saint-Julien-Molin-Molette que sur Annonay.
Et musicalement ?
Alors musicalement, là j'avoue que je suis un peu à la ramasse. Je le dis comme je le pense. Je laisse ce soin-là aux plus jeunes, c'est-à-dire tous les autres salariés de la radio, puisqu'on est quand même quatre à se répartir sur les deux studios. Et si c'était que de moi, la playlist musicale, ce serait Brassens, Brel et Ferré. Bon, eux, c'est plus moderne. Donc il y a vraiment un peu de tout, du rap, du slam, du rock. Il y a quand même du rock des années 70 aussi, un petit peu. Donc très, là aussi, très éclectique quand même. Hein.
Quatre salariés, combien de bénévoles ?
Il y a à peu près 20 bénévoles sur chaque studio, grosso modo, entre 18 et 22, quoi, chaque année, ça fluctue un peu. Et sur Annonay, la différence par rapport à Saint-Julien, c'est qu'il y a plus de jeunes, ce qui paraît un peu normal. On draine les scolaires, etc. Et du coup, ce sont des jeunes qui restent un petit peu. Il y a aussi la mission locale avec la garantie jeune qui vient faire du travail avec nous. Et c'est des jeunes après qui s'investissent un petit peu dans la radio. C'est un peu différent que sur Saint-Julien-Molin-Molette, où les gens sont en moyenne un petit peu plus âgés.
Tu l'as dit en présentation, Radio d'ici, c'est Saint-Julien-Molin-Molette, c'est un petit village, c'est vraiment une zone hyper rurale. Quand vous n'aviez pas cette fréquence à Annonay...
Oui, c'était assez confidentiel, hein, du coup. Il y avait une fréquence sur Saint-Julien-Molin-Molette et une autre fréquence assez rapidement après sur... Burdine, Bois-Argental, mais ça reste des petits bourgs, ou des villages, ou des petits bourgs. Donc ça restait une radio assez confidentielle, ce qui était quand même un petit peu dommage. Donc l'ouverture en 2006 d'une troisième fréquence sur Annonay, ça a été vraiment un appel d'air, hein, ça c'est clair. Parce que sinon ça restait vraiment quelque chose de confidentiel, et pas d'autre mot. Ça a permis justement de développer les partenariats, de développer tout le travail en milieu scolaire, de développer tout un tas d'activités de ce style-là. Et aussi avec les salles de spectacle, avec les structures culturelles comme quelque part le soir, avec une grosse structure sur l'Isère, la Drôme, le Nord-Ardèche, pour des spectacles de rue. Un des gros noyaux culturels du Nord-Ardèche et du Sud-Isère. Ouais. Voilà, c'est des choses qu'on faisait beaucoup moins quand on était que sur Saint-Julien-Molin-Molette.
Et Frédéric, tu dirais que Radio d'ici est dans une phase ascendante, descendante ou de stabilisation ?
Oh ben, à Annonay, on est dans le pays de la Montgolfière, alors on est toujours ascendant. C'est plutôt une phase de stabilisation, en tout cas pour Annonay qui est plus jeune. Pour Saint-Julien, il y a eu une petite phase de déclin quand le studio d'Annonay a fait un peu appel d'air, donc tout le monde se tournait un petit peu vers ce studio. Et puis maintenant, il y a une phase de redémarrage, donc de nouveau d'ascension. C'est un petit peu comme ça... pas en dentille, mais ça fluctue. Et donc voilà, phase de stabilisation pour Annonay et réascension pour Saint-Julien.
Tu es également la coprésidente, vice-présidente, je ne sais pas comment, présidente de Aura FM, cette fédération qui nous rassemble, nous Radio d'Iwa, vous Radio d'ici, mais un certain nombre de radios, une quarantaine, nous avait dit Farid dans le précédent volet. Qu'est-ce que tu as envie de dire de cette fédération ?
Ça fait pas très longtemps que j'en suis devenue présidente. On essaye d'organiser une coprésidence donc avec l'ancien président Farid, hein, que tu as nommé. Pour moi, c'est quand même important d'avoir une fédération de radios associatives et de pouvoir faire de plus en plus de coproduction entre radios, de plus en plus de travail en commun, et puis avoir une réflexion commune aussi sur le devenir des radios associatives. Ce qu'on peut proposer, comment on peut les développer, comment on peut s'entraider les uns les autres. Et du coup, d'avoir aussi des panels de formation à proposer, d'avoir la formation qui sera bientôt qualifiante, là, qui est en train de se mettre en route au niveau de la Fédération des radios associatives, donc Aura FM. Mais quand même, je cache pas que c'est relativement nouveau pour moi et que du coup, il faut quand même se mettre dans le bain. C'est pas toujours évident.
Bah bon courage et merci de le faire.
De rien, je vous en prie, c'est un plaisir.
Pour terminer, quelques éléments de communication pour Radio d'ici.
Les fréquences, c'est 105.7 sur Saint-Julien-Molin-Molette, 97 sur Bourg-Argental et 106.6 sur Annonay, justement. Et puis le site, c'est www.radiodici.com. Radio d'ici en un seul mot, bien sûr, .com. Et sur le site, eh bien, on trouve toutes les émissions et on peut aussi écouter la radio en streaming, comme on dit. Voilà.
Est-ce que tu veux une parole libre maintenant ?
C'est quoi la liberté ? Non, mais écoute, la parole jusqu'à présent était quand même relativement libre, même avec les questions. J'aime bien dire radio associative plutôt que radio libre, même si effectivement radio libre, ça a aussi toute une connotation, mais justement, on est quand même lié au CSA, on est lié au fonds de soutien qui nous permet de vivre, hein. Et donc on a quand même des comptes à rendre. Donc on a une parole libre, mais on est quand même soumis à des tas de contraintes qui sont pas toujours très rigolotes. Voilà.
Merci Frédéric pour Radio d'ici.
Eh ben merci beaucoup, merci à Radio Diwa surtout.
Eh ben ouais, merci Radio d'ici, voilà, merci à la Fédération Aura FM, voilà, pour tout ce qu'elle fait, pour les formations qu'elle organise et pour tout ce que ça apporte. Voilà, bon, il est moins 5, on speed,
ouais.
C'est une petite course, hein, cette émission, là, faut pas trop traîner. Donc voilà, c'est mon tour, un quoi de neuf, quoi de vieux. Eh ben non, toujours un quoi de neuf, parce qu'on a toujours pas d'archives, du coup, voilà. Pour l'instant, ça sera que du quoi de neuf. Et cette semaine, c'est Ladies First. Alors, Ladies First, c'est quoi ? Eh ben, c'est une émission musicale qui est un style musicalement et 100% féminine. Voilà, donc tous les artistes sont féminins dans cette émission. Ça a duré une heure, là, j'ai l'impression qu'il manque d'autant. Du coup, ça dure deux heures, quoi. Il continue, il grappille, il grandit. Et voilà, donc c'est DJ Tofu qui présente cette émission. Et là-dedans, on y entend du jazz, du folk, du hip-hop, du reggae, bref, plein de choses. C'est le troisième mardi du mois à 19h10 sur les ondes de RDWA et de Campus Orléans. Allez, Ladies First.
Ladies First, yes,
yeah.
Yes. Ladies First, yes,
yeah.
Yes.
DJ Tofu, Ladies First.
DJ Tofu. Ladies first.
Hey,
ladies.
DJ Tofu, ladies first.
DJ Tofu, ladies first.
DJ Tofu et ladies first.
Ho ho ho! Et non, ce n'est pas le Père Noël, mais DJ Tofu pour une émission de Ladies First.
Connais-tu le charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline et le créole et son mélange de mélanine? Connais-tu le morne et la ravine, le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine, et le crack et ses déchets de cocaïne? Connais-tu le mont Pelé et la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de Tartane, et les touristes aux seins nus à la plage des Salines, pendant que la crise de la banane s'enracine? Connais-tu le France-Banane?
The drummer's club. You take the streetcar and I'll take the sub. Let's have a party and let's spread good cheer. Oh, you bring the pretzels and I'll bring the beer. Oh,
hey, ici Espernette. DJ Tofu m'a lancé le défi. Des filles, du rock, du bruit, des noyaux. Voici ma sélection de Great Girls qui en ont sous le pied pour un Ladies First survitaminé.
Yeah.
Voilà, DJ Tofu.
Merci Ladies tout
First,
le
monde. Ladies First, le troisième mardi. Voilà, 19h10 ouais. Sur les ondes de RDWA. Merci à tous.
Ouais, c'est la fin du direct. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter aussi par mail, direndirect@riseup.net.
Voilà, passez nous voir à la radio, écoutez-nous, payez vos cotises. Allez, à mercredi.
Bonne après-midi.
Ciao.